Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez remarqué, l'amour, celui qui nous anime ici, celui qui nous transporte, arrive souvent alors qu'on a une vie bien huilée. On a des projets concrets, on est en train de construire. Qui aurait pu prédire à Raphaël qu'alors qu'elle naviguait vers une vie bien tranquille, elle devrait faire un demi-tour radical et nager à contre-courant vers une autre histoire d'amour?
On est fin 2009, je suis à Paris, je viens de terminer mes études en école de commerce. Et je démarre mon premier CDI dans un cabinet d'audit dans lequel j'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans. Je suis en couple avec une personne que j'ai rencontrée au tout début de l'école de commerce. Il s'appelle Benjamin. Ça fait donc 4 ans qu'on est ensemble. On a passé toutes nos années d'études à l'école ensemble. On a le même groupe d'amis. On a fait des voyages ensemble, etc. Lui, sur ces 6 derniers mois, il a fait un stage à New York. Il est embauché en CDI dans ce cabinet de fusion-acquisition. Donc, c'est un de ses rêves de pouvoir travailler à New York, de démarrer sa vie active là-bas. C'est un super beau projet, et puis pour lui comme pour moi, pour notre couple. Et donc, sans aucun doute, je décide de le suivre à New York. Moi, je travaille dans un cabinet d'audit financier. On fait des missions de commissariat aux comptes. Ce sont des missions courtes, d'une ou 2 semaines, chez des clients. Et donc, on est amené en audit à rencontrer de nouveaux collaborateurs chaque semaine, quasiment. Et je décide donc, fin 2009, de poser ma démission pour rejoindre Benjamin à New York. Février 2010... Donc là, je suis en période de préavis dans le cabinet d'audit, puisque j'ai posé ma démission quelques mois auparavant. Je suis à quelques semaines de mon départ à New York, et on me demande au cabinet de réaliser ma dernière mission d'audit chez un client en Guyane pendant 2 semaines. Je suis assez... Je suis pas très contente, en fait, je râle pas mal parce que je me dis que j'ai quand même autre chose à faire que de partir à l'autre bout du monde, en Guyane pendant 2 semaines, alors que je suis à quelques semaines de mon départ. J'ai des amis à voir, j'ai ma famille à voir, j'ai des cartons à préparer, etc. Donc je demande s'il est possible de mettre quelqu'un d'autre sur la mission et on me répond que non. Donc je pars pour cette dernière mission en Guyane. Je pars avec deux personnes que je connais de vue. Il y a Antoine, qui sera mon manager pour cette mission de 2 semaines, qui a 4 ans de plus que moi, donc qui a 28 ans. Et Aurélie, qui est de mon niveau, c'est-à-dire junior, qui a mon âge. Et voilà, je ne les connais que de vue. Mais de toute façon, j'ai l'habitude en audit, on découvre à chaque fois des nouveaux collaborateurs et en général, ça se passe bien, donc pas trop d'inquiétude. On se retrouve à l'aéroport, on est mi-février 2010. Antoine est arrivé avant moi, Aurélie n'arrivera que le lendemain. Et donc Antoine il lit l'équipe, il est dans son journal, il me calcule pas trop. Je comprends qu'en fait, il a fait une grosse soirée la veille et qu'il s'est couché tard. En gros, voilà, je comprends qu'il a pas trop envie de parler, il a pas trop envie que je le dérange. Je lui parle aussi à l'aéroport de mon angoisse, ma phobie de l'avion. Je déteste ça, j'ai vraiment très peur de prendre l'avion. Pendant le vol, je suis bien sûr très stressée et pas une seule fois, il se retourne pour me demander comment ça va. Donc là, moi, je me dis, mais c'est quoi ce type, quoi ? On arrive en Guyane, on prend la voiture et là, il sort sa pochette avec tous ses CD parce qu'il est fan de musique et en particulier de Gainsbourg. Il met le CD de Gainsbourg et on roule les fenêtres ouvertes et c'est parti. Il commence un petit peu à se décoincer, à se détendre et on va passer la première journée tous les deux où on va passer un agréable moment. Il est finalement plutôt sympathique, alors que j'avais une image assez négative en arrivant en Guyane. Et très vite, cette image s'estompe et je le trouve très sympathique. Aurélie, elle nous a rejoint le lendemain de notre arrivée en Guyane. Elle est très sympa, très drôle et le trio fonctionne bien. On passe vraiment des bons moments. Antoine, c'est pas la première fois qu'il vient en Guyane, il connaît déjà bien la région et donc il connaît aussi les bonnes adresses, les bons restaurants, il aime bien manger et voilà, on travaille bien la journée et le soir on est récompensé en quelque sorte puisqu'on dîne à chaque fois dans un lieu sympa. Les trajets en voiture aussi sont l'occasion de partager, de rigoler, d'écouter Gainsbourg, de se découvrir un petit peu plus. Et chaque jour je tombe un petit peu plus sous le charme d'Antoine. Je le trouve drôle, je le trouve beau, je trouve qu'il ne se prend pas du tout au sérieux, qu'il est très simple, qu'il est très facile à vivre, qu'on a les mêmes centres d'intérêt, je crois à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a les mêmes valeurs. Et ces 2 semaines que je passe en Guyane, c'est vraiment un moment suspendu, une parenthèse. Dans ma vie, je sais que voilà, à mon retour, je m'en vais, je vais rejoindre Benjamin, je pars à New York, mais je profite à fond de cette période et je tombe complètement sous le charme d'Antoine. Il commence vraiment à occuper mes pensées et prendre le pas sur le reste, en fait. J'ai du mal à me projeter à New York. Là, j'y pense plus du tout et je ne veux plus y penser. Je suis dans le moment présent parce que je sais qu'il a une fin. Mais en revanche, je garde bien sûr tout ça pour moi. Je sais d'ailleurs que lui est en couple, il nous l'a dit lors d'un dîner. Je garde tout ça pour moi. Entre les 2 semaines de mission, on décide de partir en excursion. Et donc, on part chez Gérard, qui est installé en pleine forêt amazonienne, qui a mis en place un petit campement au milieu de la jungle, en fait. Et ce Gérard nous accueille pendant 2 jours, avec vraiment les moyens du bord. Il n'y a aucune sécurité. On y va en pirogue à moteur. On en a pour 2 heures de trajet en pirogue. Sur ce fleuve marron entouré de mangroves, on arrive au campement. Il y a 3 cahutes. Il y a Gérard avec son gros ventre, son Bermuda et sa machette qui nous attend. Il a une soixantaine d'années. C'est un grand voyageur, un grand explorateur et il vit ici sans eau, sans électricité. Il dort avec un fusil à côté de son lit parce que, il y a des clandestins brésiliens qui rôdent dans les parages. Il lui est déjà arrivé d'avoir été braqué par un Brésilien en pleine nuit. Il a eu très peur et depuis, il vit armé sur son campement. Et donc nous, évidemment, on a peur. Enfin, il nous fait très peur avec toutes ces histoires. Il nous a proposé de faire une excursion le samedi après-midi. Il nous a proposé de prendre sa pirogue à moteur, de remonter le fleuve, tout marron, avec beaucoup de courant. Et il nous dit, bah, écoutez, à un moment, je vous dirai de sauter de la pirogue, vous sauterez, et ensuite vous laissez porter par le courant, vous verrez, c'est super, pas besoin de nager. Et moi, je redescendrai avec ma pirogue un peu plus bas, je vous attendrai sur une plage, hein, on va dire. Je vois que Antoine et Aurélie sont plutôt motivés à cette idée-là. Moi, je suis très peureuse, donc en temps normal, je n'aurais jamais accepté de faire ça, mais j'ai pas envie de faire ma trouillarde, donc je les suis. On part donc dans la pirogue de Gérard, on remonte le fleuve, et donc il nous dit à un moment, bah, allez-y, sautez. J'ai oublié de préciser, évidemment, on n'a pas de gilet de sauvetage, enfin, aucune sécurité qui est prise. Je vois Antoine sauter, Aurélie qui suit, donc je suis obligée de suivre. Je saute à mon tour. Il y a un gros courant, en effet, très gros courant. Pas besoin de nager, ça c'est clair. Et on se laisse porter comme ça quelques minutes, jusqu'au moment où on voit Gérard un peu plus bas avec sa pirogue qu'il a accostée au milieu de la mangrove. On s'apprête donc à le rejoindre, sauf que il y a un tel courant qu'il nous est impossible de franchir le fleuve, en fait, c'est impossible. Et on s'épuise comme ça en essayant de traverser le courant et on n'y arrive pas, on lutte, on n'en peut plus. Je suis à bout de force, à bout de souffle et vraiment je ressens une fatigue énorme et là je n'en peux plus, j'abandonne. Je me dis, mais en fait là tu vas tomber, si tu arrêtes, tu vas tomber à pic et c'est fini en fait, tu vas te noyer, c'est terminé. Je lève la main et je dis, je vois Antoine un petit peu plus bas, et lui me dit, laisse-toi porter par le courant, tant pis, laisse-toi dériver. Et en fait, je n'avais pas pensé à cette solution qui paraît pourtant évidente, qui était celle de me laisser porter par le courant. Donc j'écoute son conseil, il fait la même chose, Aurélie également, et on se laisse complètement dériver. Et on arrive plusieurs mètres plus bas, on s'accroche à une branche, ça y est, on est sauvé. Puis Gérard arrive avec sa pirogue et nous récupère. Mais j'ai vraiment cru, à ce moment-là, j'ai cru mourir. Et Antoine, voilà, je l'ai vu un peu comme un sauveur. On retourne au campement, on va se coucher pas très sereinement. Moi, je dors dans une cabane avec Aurélie et Antoine dort dans la cabane voisine tout seul. Pas d'eau, pas d'électricité, hein, on est vraiment plongé dans le noir au milieu des immenses arbres de la forêt amazonienne. Et là, au bout d'un quart d'heure, je dirais, on entend un bruit de fusillade. On entend papa. C'est pas possible. Les clandestins dont nous parle Gérard sont là et en fait ils sont en train de nous attaquer. Donc là commence une nuit de spéculation et d'angoisse où on s'imagine que les clandestins sont armés jusqu'aux dents et vont nous attaquer d'une minute à l'autre. Donc on est allongé sur notre lit avec Aurélie, avec un cœur qui bat à 1000. On ne parle pas, mais j'entends la respiration saccadée d'Aurélie et moi aussi j'angoisse, je sais que voilà, c'est la fin pour nous. Et puis le jour se lève. Et on va voir Gérard, on lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et en fait, il nous explique qu'il n'y a pas eu une fusillade, mais il y a eu un immense arbre de la forêt amazonienne qui s'est cassé. Et en s'effondrant, le bruit des branches et des craquements, ça fait comme un bruit de fusillade. Mais lui a eu très peur puisque ce grand arbre s'est écroulé juste à côté de notre cabane. Donc, une nouvelle fois, l'impression que j'allais mourir et que c'était la fin. Antoine, lui, était dans la cabane voisine. Il a eu très peur également. Il a confirmé que le bruit lui avait fait penser à une fusillade. Mais je pense que ça a encore renforcé nos liens parce qu'on a quand même vécu deux expériences particulières. Moi, je me suis cru mourir deux fois en l'espace de 24 heures. La deuxième semaine de mission, la dernière sur place. On passe encore une fois de très très beaux moments. Je crois que je donne de moins en moins de nouvelles à mes proches et je profite de chaque seconde. Je rigole au contact d'Antoine, il me fait mourir de rire. Je ne me l'avoue pas, mais oui, c'est un coup de foudre. Je commence à développer des sentiments amoureux pour lui, alors que je ne le connais que depuis une semaine et que cette histoire n'a aucun sens. Mais c'est plus fort que moi, je savoure chaque instant et je me dis que ce garçon a l'air vraiment extra. On prend le vol pour Paris. Et là, moi qui ai très très peur en avion, ce vol se passe très mal puisque c'est la tempête Xynthia sur notre vol retour. On est donc un des derniers avions à atterrir à Charles de Gaulle le dimanche matin. On atterrit à 7h du matin et à 7h30, il décide de fermer l'aéroport. Le vol est vraiment... la dernière heure est très très compliquée. Ça bouge dans tous les sens. Les hôtesses sont assises et font vraiment une tête qui ne donne pas confiance. Elles ont l'air très angoissées. Moi, je me dis que ça y est, voilà, c'est terminé. Je vois des gens à côté de moi qui pleurent. J'en entends d'autres vomir. Et puis, il y a comme un silence de mort. Tout le monde attend la fin. Mais moi, la fin, je me dis que c'est le crash, en fait. Je suis sûre et certaine que, voilà, c'est fini. J'ai passé deux belles semaines, mais c'est la troisième fois sur ces deux semaines. Et j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai certainement réalisé qu'on n'avait qu'une seule vie et que la vie, voilà, pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre et qu'elle était très fragile et très précieuse. Donc on atterrit heureusement sans encombre, mais après un vol vraiment très très éprouvant, même Antoine qui est très serein habituellement en avion, il m'avouera avoir eu peur. J'arrive pas à me projeter dans mon départ à New York, j'arrive pas à penser à ça. Antoine envahit toutes mes pensées. Je ne dors plus, je n'arrive plus à manger, je n'en parle à personne, bien sûr, pas à mes amis. Tous mes amis sont en commun avec Benjamin, donc c'est impossible pour moi de me confier à eux. Je n'en parle pas à mes parents, évidemment. Je suis toute seule avec ce secret qui m'angoisse terriblement, mais qui est source de... d'émotion et de bonheur pour moi. Je vis des moments avec Antoine qui m'ont procuré vraiment une joie immense, mais en même temps beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et je pense qu'il ne se doute pas une seconde des sentiments que j'éprouve pour lui. Je crois juste qu'il trouve que je suis sympathique et qu'on rigole bien ensemble et qu'on a un bon feeling, une belle relation, mais ça s'arrête là. Et il n'est pas question que je lui en parle ou quoi que ce soit. C'est inenvisageable. Et on est jeudi, c'est mon dernier jour au cabinet d'audit. J'avais prévu le soir de prendre un verre avec un de mes copains qui s'appelle Youssef, vers les grands boulevards. J'y vais en métro avec Antoine, puisqu'il habite pas très loin des grands boulevards. Et il me propose dans le métro de boire un verre avec lui en attendant que mon ami Youssef arrive. Au fond de moi, je suis folle de joie qu'il me propose cela. Je me dis qu'il faut absolument que je refuse ce verre, mais j'écoute mes sentiments et j'accepte de le suivre. Donc on arrive dans une brasserie au Grand Boulevard qui s'appelle le Brébant. On s'installe, j'ai une demi-heure devant moi avant ma soirée avec mon ami Youssef. Voilà, on discute très simplement. Et puis je reçois un texto de Youssef me disant qu'il a un empêchement et qu'il est désolé, mais il ne pourra pas venir pour notre soirée. Et là, c'est un énorme coup du destin parce que je devais partir et plus jamais revoir Antoine. Or là, j'ai la soirée devant moi et Antoine n'a rien de prévu non plus, donc on va prolonger ce verre. Au bout d'un moment, on commence à parler de New York, de mon projet de départ. Antoine me dit très sincèrement à quel point il admire en fait le fait que je rejoigne mon copain, que je fais preuve de courage d'aller comme ça vers l'inconnu juste par amour. Il trouve ça extrêmement mature et il me dit à quel point il est admiratif. Et là, je peux plus mentir. Et je lui dis, écoute, jusqu'à présent, en effet, j'étais sûre de mon choix de partir à New York. Mais depuis que je t'ai rencontré, depuis 2 semaines, tu as mis le bazar dans ma vie. Je n'ai plus envie de partir, en fait. Et sans le vouloir, je lui fais une énorme déclaration d'amour. Alors qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, alors que je ne le connais pas, alors qu'il est en couple, alors que je suis en couple. Il tombe des nues, je le vois encore, les yeux grands ouverts, les bras ballants, il n'en revient pas parce qu'il ne s'en est pas douté une seule seconde. Il voit à quel point je suis chamboulée, retournée. Il pensait que j'étais sûre de ma décision, que j'étais bien dans mon couple, que mon couple était solide, qu'il y avait... Et pendant ces 2-3 semaines que l'on a passées ensemble, jamais j'ai essayé de le charmer, jamais je lui ai montré quoi que ce soit. Et donc, il voit l'état dans lequel je suis, à quel point je suis complètement perdue, désorientée et complètement amoureuse de lui, alors qu'il ne s'est rien passé entre nous. Et il trouve ça fou, il trouve ça complètement fou. Il est en couple, mais depuis quelques temps avec une jeune fille, ça doit faire quelques mois. Rien de très sérieux, il n'est pas vraiment amoureux. Il n'avait pas imaginé qu'on puisse avoir une relation ensemble, mais je sens qu'il est plutôt réceptif. Cette discussion que l'on a est d'une telle puissance pour lui comme pour moi. C'est vraiment un missile. On est scotché, on est bouleversé, mais on se demande ce que va être la suite. On quitte le Brébant à la fermeture. Et on part chacun de son côté, complètement chamboulé par ce qui vient de se passer. Je rentre à pied chez moi. J'avais besoin de ce temps de réflexion. Et le lendemain, on s'échange évidemment des messages. J'ai une soirée avec mes amis, mais je suis complètement absente en fait. Je ne pense qu'à Antoine. Eux me parlent de mon départ prochain à New York, je fais bonne figure, mais je suis angoissée, terriblement angoissée à cette idée. Je me dis que je passe à côté d'une personne incroyable, que je n'aurai pas l'occasion de découvrir davantage, que je passe voilà, à côté de ma vie en fait. Je sens au fond de moi que c'est lui, alors que je ne le connais pas, mais je sens que c'est lui. Là, on est à une semaine de mon départ à New York. C'est mon dernier week-end à Paris. J'ai prévu de faire mes cartons, de voir mes amis. Et ben finalement, on décide avec Antoine de passer cette journée ensemble pour voilà, profiter une dernière fois des moments ensemble parce qu'on sait que c'est la fin, en fait. Et pour moi, à ce moment-là, il n'y a que ça qui compte, c'est passer du temps avec lui. Avant mon départ, on se retrouve, on déjeune ensemble, on ne s'est pas revus depuis la fameuse discussion au Brébant. Donc au départ, on a du mal à trouver les mots, on a la gorge un peu serrée, On sait que les heures ensemble nous sont comptées. Et pour autant, il ne se passe rien entre nous. Hein. C'est juste, on se mange du regard. Et on se raconte nos vies, notre enfance. Et je suis la plus heureuse du monde et en même temps la plus triste. Parce que je sais que tout ceci a une fin alors que cette histoire n'aura même pas commencé. Le soir, il me rejoint chez moi. Je me souviens, je mets mon pyjama le plus affreux pour qu'il ne se passe surtout rien. C'est vraiment ambivalent parce que d'un côté, je crève d'envie de le serrer dans mes bras et de l'embrasser. Et de l'autre, je ne peux pas faire ça. Il y a Benjamin qui m'attend à New York. Je suis en couple quand même depuis 4 ans. Je trouve que je vais beaucoup trop loin. Mais donc, il peut pas se passer quelque chose avec Antoine. Je me le refuse. C'est contre mes principes. C'est impossible. Je mets donc mon plus moche pyjama pour recevoir Antoine. Il arrive chez moi, il découvre mon appartement, on passe une belle soirée ensemble et on va dormir ensemble cette nuit-là, se serrer dans les bras très très fort, comme si c'était la première et la dernière fois. Et cette nuit-là, on va échanger aussi notre premier baiser. Il est tout ce que j'attendais et en même temps, il me fait dire que ça y est, en fait, je suis passée de l'autre côté, j'ai cédé à mes sentiments. Mais le matin, quand je me réveille tôt, je n'ai plus aucun doute. Je sais que je ne partirai pas à New York. Je le sais, j'en suis convaincue. Et rien ne m'arrêtera dans cette décision, c'est sûr. C'est lui, c'est l'homme de ma vie, je le sais, je le sens au fond de moi. Et je ne partirai pas à New York et je ne peux pas faire ça à Benjamin, je ne peux pas faire ça à moi. Ce serait mentir à tout le monde que de prendre cet avion. Et quoi qu'il arrive, parce qu'il peut se passer évidemment plein de choses, Antoine, je ne le connais que depuis 2-3 semaines, quoi qu'il arrive, je sais que c'est la bonne décision. Donc j'annonce ça à Antoine qui se réveille. Je lui dis, écoute Antoine, j'ai pris ma décision, je ne pars pas à New York. Il n'en revient pas de cette prise de décision. Encore une fois, il y a juste eu un baiser entre nous. Hein. C'est tout ce qu'il y a eu. Et pour ce baiser, je remets tout en cause et j'arrête tous mes projets pour un inconnu. Et moi, à ce moment-là, je suis convaincue que notre histoire sera une grande histoire et que c'est l'homme de ma vie. Donc je me sens libérée d'avoir pris cette décision. Et en même temps, le plus dur m'attend, puisqu'il va falloir que j'annonce cela à tout le monde, et en particulier à Benjamin. Après ça, je décide de convoquer mes deux meilleures amies. Je leur dis que c'est urgent et que je dois absolument les voir. J'ai quelque chose à leur dire d'important. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles et en même temps, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je suis complètement chamboulée et je leur dis, les filles, écoutez, je pars plus à New York, je suis tombée amoureuse. Et elles tombent des nues, évidemment. À la fin du restaurant, j'appelle Benjamin pour lui dire. Je lui dis que je ne partirai pas à New York parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Je ne cache pas la vérité, je lui dis avec sincérité ce qui s'est passé, évidemment. Et au départ, il n'y croit pas, je suis obligée de le répéter plusieurs fois. Il pense que c'est une mauvaise blague, puis il comprend la réalité de ce que je viens de lui annoncer. C'est très difficile parce que je sais que je suis en train de le briser à ce moment-là, mais je suis obligée d'écouter mon cœur, je ne peux pas lui mentir. Ce serait le trahir que de monter dans cet avion. J'appelle ensuite mes parents pour leur faire part de cette nouvelle. Ils sont extrêmement choqués et très inquiets également pour moi. Tout de suite, ma mère me dit « Mais tu n'as plus d'appartement d'ici une semaine ?» comment vas-tu faire? Tu n'as plus de job aussi, tu as démissionné, ça y est, tu es parti. Donc là, qu'est-ce que tu vas devenir en fait? Cet Antoine, tu ne le connais que depuis 2 semaines et là, tu quittes tout, tu n'as plus rien. Tes amis vont te tourner le dos, comment vas-tu faire? Et je la rassure très vite en lui disant que ma meilleure amie que j'ai vue juste avant m'a proposé de m'héberger dans son salon le temps que je retrouve un appartement. Mais moi, à ce moment-là, toutes ces inquiétudes sont très futiles. Le plus important, c'est que ça y est, je vais pouvoir vivre cette histoire d'amour, je vais pouvoir la vivre pleinement. Je suis éperdument amoureuse de lui. Lui aussi a des sentiments très forts pour moi, puisque en fait, cette relation elle a dû démarrer de façon assez puissante. Je vais retrouver un travail assez rapidement. Au bout de 6 mois, on s'installe ensemble avec Antoine et on démarre notre vie à deux. Je crois que j'avais jamais vécu le grand amour jusqu'à lui. La vie est superbe et facile à ses côtés. Et en 2012, il me demande en mariage. En 2013, on se marie, entouré de tous nos amis et de nos familles. Et suivent ensuite nos 2 enfants, qui ont aujourd'hui 6 ans et 4 ans. Je me dis que j'ai bien fait d'écouter mes sentiments, de me faire confiance, de ne pas écouter les autres, leurs craintes, leurs réticences. Et puis aussi, je suis assez admirative de cette décision radicale que j'ai prise. À ce moment-là, j'étais insubmersible et extrêmement forte et sûre de mon choix. Je trouve ça, avec du recul, complètement fou, et complètement irrationnel, mais en même temps hyper courageux. Et je me félicite d'avoir suivi mon cœur et mon intuition. Aujourd'hui, c'est bien sûr toujours l'homme de ma vie, mais nos sentiments ont évidemment évolué, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble, on est parents, on partage un quotidien, donc ça n'a rien à voir avec les amours d'un début de relation, mais c'est très fort. Si c'était à refaire, je refais tout exactement pareil.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.